Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Depuis plusieurs jours, des villes de banlieue parisienne sont secouées par des violences en réaction à la violente interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois. Peut-on, selon vous, encore éviter un scénario comparable à celui de 2005 avec des émeutes qui se propagent à l'ensemble du pays?
Je l'espère, parce que je crois que c'est nécessaire pour notre pays. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises suite à ces actes qui sont des actes éminemment condamnables. Et de ce point de vue-là, je trouve que le gouvernement met un petit peu de temps à traiter cette question. C'est-à-dire que, un, il faut que justice soit faite et que justice soit faite dans des délais les plus courts possibles. Et deux, il faut qu'il y ait des mesures immédiates pour expulser de la police municipale ceux qui commettent de tels actes.
Mais c'est une espèce de purge, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, une purge des éléments malsains de la police.
La formule est claire, mais bien sûr, il faut mettre un terme à ce type de...
Ça se fait pas comme ça. Il faut des enquêtes, il faut des procédures. On décide pas comme ça du jour au lendemain.
Bien sûr, mais je crois qu'il faut donner un signe. Il faut donner un signe parce que sinon on a le sentiment que ce type de pratiques sont des pratiques acceptables. Et moi j'ai écouté un petit peu le rassemblement qui a eu lieu à Bobigny samedi. Et je crois qu'il y avait un sens des responsabilités. Alors vous avez beaucoup insisté sur les violences de quelques individus à la fin du rassemblement, mais la teneur du rassemblement c'était une teneur de calme, de gens qui sont fiers d'être français, mais qui n'acceptent pas que dans la police, qui doit être une police républicaine. Et bien sûr tous les éléments de la police ne commettent pas tels actes. Mais clairement bien sûr que c'est une infime minorité, mais ce type de pratique, franchement, elle détend le lien entre la police et la population, donc il faut mettre un terme dans des délais les plus courts.
Alors reste que donc depuis plusieurs jours, des événements graves se produisent dans un certain nombre de villes, avec des destructions de mobilier public, avec des voitures incendiées. Quelles conséquences, selon vous, peuvent avoir ces événements sur la campagne présidentielle et sur l'élection présidentielle, finalement?
Clairement, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie, puisque je crois que les Français ne peuvent pas faire des choix qui soient des choix éclairés dans une ambiance qui soit une ambiance qui ressemble à une forme de guerre civile. Donc c'est pour ça que clairement des politiques d'apaisement et des actes et des mesures d'apaisement doivent être prises dans les plus brefs délais. Donc c'est pour ça qu'il faut donner un signe. Donc il y a des mesures de long terme et des mesures de court terme, si vous voulez. Les mesures de court terme, c'est mettre un terme à ce type d'actes dans la police, donc en expulsant les éléments malsains. Et puis des mesures de long terme, c'est un travail sur la formation, parce que le viol est une pratique complètement inacceptable dans la police.
Alors, je vais poser ma question de manière plus précise, au fond, quand je vous demande quelles conséquences ça peut avoir sur l'élection présidentielle, est-ce que ça peut favoriser un ou une candidate?
Bien sûr, mais de manière générale, ça peut...
C'est-à-dire, au fond, une France dans une situation quasi, le mot est peut-être un peu fort, mais insurrectionnelle, comparable à 2005, à quelques jours de l'élection, est-ce que ça favorise Marine Le Pen?
Je n'en sais rien, en tout cas, je le souhaite pas.
Sans doute, mais...
Mais ce que je souhaite, moi, c'est que cette élection présidentielle, elle permette de travailler et de se poser les vraies questions auxquelles est confronté aujourd'hui le pays, la question sociale, la question écologique, la question démocratique, et je crois que c'est ça les enjeux qui doivent être au cœur de cette élection. Donc il faut vraiment faire en sorte que ces événements-là, ne polluent pas la campagne présidentielle.
Alors vous appeliez à des gestes d'apaisement. François Hollande va se rendre aujourd'hui à Aubervilliers pour rencontrer des jeunes, pour évoquer notamment avec eux la question de l'emploi. Est-ce que le président de la République est encore aujourd'hui, selon vous, en situation de faire retomber la tension?
Je sais pas. En tout cas, il est dans son rôle. Je trouve que c'est normal qu'il fasse ce type de rencontre. Mais clairement, si vous voulez, c'est deux questions différentes. Mais la question de la situation sociale dans les quartiers populaires est une question aujourd'hui qu'il faut se poser. Donc, il faut des créations d'emplois, il faut lutter contre le chômage, il faut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre la fin des services publics dans les quartiers populaires. Je pense que c'est ça qui préoccupe les citoyens de ces quartiers. Donc, il faut y mettre un terme. Il faut y apporter des réponses politiques.
Le rassemblement de la gauche pour la présidentielle agite beaucoup les esprits depuis un petit moment, du côté de Benoît Hamon, de Yannick Jadot, le candidat écologiste, de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Est-ce que c'est aussi une préoccupation importante pour Jean-Luc Mélenchon?
C'est une question forcément qu'on se pose, puisqu'on a trouvé positif que dans la primaire du Parti socialiste, la ligne qui soit la ligne politique de M. Valls ait été chassée, ait été mise dehors. Donc de ce point de vue-là, nous on considère que c'est une nouvelle intéressante pour le pays.
La chose dans ce sens là, ce que vous trouvez positif, c'est que ce soit Valls qui a été dégagé, pour reprendre vos termes, mais pas que ce soit Benoît Hamon qui a été choisi.
Parce que je crois que ça correspond à quelque chose qui traverse le pays dans ses grandes profondeurs. Cette vague dégagiste, on l'a vu aussi au moment de la primaire de la droite. Monsieur Sarkozy dehors, Monsieur Hollande en incapacité de se présenter, Monsieur Valls dehors. Je crois que c'est ça le principal enseignement de cette primaire. De ce point de vue-là, ça pose à Benoît Hamon une question importante, savoir est-ce que oui ou non il reste fidèle à ce courant dégagiste. Est-ce que oui ou non, il rompt enfin avec avec l'ancien monde. Et ça, c'est ça, nous, les questions que nous lui posons aujourd'hui, un besoin de clarification. Il ne peut pas être question dans cette élection présidentielle de recycler tous ceux qui ont fait la politique de ces dernières années, politique qui a été largement condamnée par le peuple français.
C'est de ça que Jean-Luc Mélenchon parle quand il dit qu'il veut pas qu'on se paye sa tête.
Bien sûr.
Il faut que tous les éléments, en gros, du Parti socialiste, à l'exception peut-être de quelques frondeurs, soient dégagés, encore une fois, pour reprendre le terme.
Non, mais c'est surtout, il faut que Benoît Hamon mette en cohérence ses actes et ses propos. Et clairement, on pourra pas faire une politique qui soit clairement une politique en rupture avec ce qui a été mis en place ces dernières années, en recyclant les anciens ministres de Monsieur Hollande, en recyclant les députés qui ont voté toutes les lois, la loi, par exemple la loi El Khomri, si vous voulez. Monsieur Hamon dit dans son programme qu'il va mettre un terme à la loi El Khomri, il aura du mal à le faire en proposant à Madame El Khomri d'être un nouveau député.
Ces questions-là, elles vont au-delà du projet, ces questions de personnes.
Non, mais elles sont indispensables pour qu'on puisse croire réellement dans le projet. Parce que je crois que les Français sont un peu vaccinés des promesses de campagne qui sont pas suivies des faits. Je crois que le coup du Bourget, par exemple, c'est quelque chose qui reste dans la tête de beaucoup de gens. Et si vous voulez aujourd'hui un projet politique auquel les Français adhèrent pour changer vraiment notre société aujourd'hui, clairement, il y a besoin d'un certain nombre de clarifications.
Ça, c'est ce que demande Jean-Luc Mélenchon. Et lui, de son côté, à quoi est-il prêt ? À quelles concessions éventuelles est-il prêt pour favoriser ce rassemblement de la gauche ?
Mais toutes les concessions sont possibles à partir du moment où elles se font sur une ligne claire.
Y compris celle éventuellement de ne plus être candidat ?
Écoutez, les affaires de personnes doivent jamais être le problème. Le problème doit jamais être considéré dans ces termes-là. Ce qui doit être traité d'abord, c'est la question du programme, du projet, et ensuite la question de la clarté des orientations politiques. Parce que sinon, on va raconter des histoires aux Français. Et je crois que les Français, ils en ont un peu assez des responsables politiques qui leur font des promesses et qui font l'inverse une fois aux responsabilités. Par exemple, sur la question européenne, si on prend cette question qui est une question importante, décisive aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens avaient entendu M. Hollande nous dire qu'il allait renégocier le traité européen. Je crois que ça n'a pas été fait, hein, puisqu'il est allé voir Mme Merkel et qu'il est rentré à la maison sans rien. Benoît Hamon était ministre de ce gouvernement, ça l'avait pas fait démissionner, donc... Clairement, voilà, je crois qu'il y a besoin de rassurer un peu les Français sur ses intentions précises.
Est-ce que vous pensez que François Fillon pourra aller au bout de sa candidature à l'élection présidentielle ?
Franchement, je crois que sa situation est un peu intenable. Quand on a fait campagne sur la vérité, la justice, la suppression, l'exemplarité, la suppression des postes de fonctionnaires, et quand on verse de telles indemnités, parce que je crois que ce qui est le plus choquant dans cette histoire, c'est le montant des indemnités qui est en décalage total avec la situation sociale du pays. Il y a 9 millions de pauvres aujourd'hui dans ce pays. Et quand Monsieur Fillon s'en prend à l'assistana, en réalité, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la question, c'est plutôt la question de l'assistante, pour faire un petit jeu de mots. Donc, franchement, il est dans une situation qui a, à mon avis, une situation difficile.
Oui. Qu'est-ce que change le décrochage dans les sondages de François Fillon ? Qu'est-ce que ça change dans la campagne présidentielle ?
Je pense que ça montre que dans cette campagne présidentielle, tout est possible. Aujourd'hui, alors moi, les enquêtes d'opinion, vous savez, je les prends un petit peu comme des horoscopes.
Tout le monde aujourd'hui, oui.
Et puis je pense qu'on fait bien de le faire, puisqu'elles se sont quand même toujours trompées. Mais clairement, ça montre qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour être présent au deuxième tour de cette élection, qui se joue à 19-20%, et que donc les différentes propositions politiques qui sont sur la table sont en mesure d'être présentes au deuxième tour. La France insoumise, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est une candidature qui aujourd'hui est en capacité d'être présente au deuxième tour et de proposer au pays un autre avenir.
Merci Manuel Bompard.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.